à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
C'est notre troisième entretien avec Pierre Egea. Pierre Egea, bonjour.
Bonjour.
Pierre Egea, je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Toulouse Capitole et que le président de la République vous a confié une mission avec un autre collègue qui est chargé de, enfin, qui a pour objectif de réfléchir à l'évolution institutionnelle des DOM-TOM. Alors, vous nous avez expliqué la dernière fois un certain nombre de choses sur le fonctionnement de votre groupe de travail et sur la deadline qui est au mois de juin, date à laquelle vous devez rendre fin juin votre rapport, qui consiste à envisager comment peut évoluer le contexte institutionnel et constitutionnel peut-être des DOM-TOM. Mais vous nous avez expliqué aussi que souvent un certain nombre de choses sont méconnues. Par exemple, que la plus grande frontière qu'a la France avec un pays étranger, c'est le Brésil, puisqu'on a 700 km de frontière avec le Brésil et le Suriname en Guyane. Il y a aussi des eaux territoriales extrêmement vastes qui sont liées à ces possessions des DOM-TOM et qui donnent une certaine richesse et une certaine capacité stratégique à la France. Bref, qu'il y a de multiples enjeux derrière. Et sans parler, bien sûr, du phénomène qui a explosé aux yeux du grand public avec les événements de Mayotte ces derniers temps, qui sont liés à l'immigration. Mais comme vous nous l'avez dit la dernière fois, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet. Le problème de l'immigration à Mayotte avec les Comores, puisque c'est une île dans un archipel des Comores et que donc qui est extrêmement attractive pour tout un tas de Comoriens avec des flux d'immigration très importants, mais qu'à peu près le même problème se pose dans d'autres territoires. Et par exemple, vous nous citiez le cas de la Guyane justement, donc je voudrais qu'on revienne là-dessus. Que vous nous précisiez bien le contexte à droite et à gauche, et en particulier en Guyane, qu'on connaît mal.
Oui, la question en Guyane, elle est évidemment liée aux frontières dont nous avons parlé précédemment et que vous avez rappelé tout de suite. Il y a une pression migratoire très forte qui vient du Suriname. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, accueille énormément de Surinamiens, et puis qui vient, bien sûr, du Brésil, à travers ces 700 km de frontières dont nous parlons. Il faut y ajouter également les Haïtiens, qui se rendent par bateau jusqu'en Guyane, de sorte qu'à Cayenne, par exemple, vous avez beaucoup d'Haïtiens.
Réfugiés.
Oui, absolument.
Et ça ne va pas s'arranger parce que malheureusement, Haïti est en perdition.
Haïti est dans une perdition, c'est dans une perdition totale. Ouais. Donc si vous voulez, en réalité, il y a une circulation très importante en Guyane et une très grande difficulté à faire face à cette immigration. Et des Guyanais qui sont eux-mêmes très divers d'ailleurs. Mais des Guyanais qui sont dans un sentiment d'insécurité profond aujourd'hui.
Oui, vous me disiez qu'il y avait 60 000 personnes il y a 15 ans ou 20 ans.
Oh, il y a 30 ans,
il y a
30-40 ans. Mais on a une progression démographique qui est fulgurante et qui est évidemment due à un apport du Brésil, du Suriname, d'Haïti. Alors... Il y a un phénomène paradoxal, parce que les Guyanais ont toujours eu le sentiment d'être un peu méconnus, parce qu'ils étaient peu nombreux, par rapport notamment à la Guadeloupe ou à la Martinique, qui sont des îles avec 350 000 habitants, donc bien plus nombreux que la Guyane, avec un territoire beaucoup plus exigu. Mais aujourd'hui, les Guyanais sont à la fois, d'une certaine manière, assez contents d'avoir un nombre d'habitants qui leur permet de parler.
Ils sont combien aujourd'hui ?
350 000. Donc ils sont plutôt assez contents d'être assez nombreux, suffisamment nombreux pour être une collectivité territoriale qui compte.
Plus visible.
Plus visible. Et en même temps, très inquiet par les phénomènes induits par l'immigration non contrôlée, et en particulier le maire de Cayenne nous rapportait l'existence d'une cinquantaine de squats à Cayenne qui sont quasi incontrôlés. Donc, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'immigration qui sont extrêmement lourds et qui sont vécus pour le coup par l'ensemble des Guyanais. Moi, je n'ai pas auditionné un seul membre de collectivité ou maire d'une telle ou telle ville qui ne nous ait pas alerté sur cette problématique, de quelque parti politique qu'il vienne.
Oui, oui, c'est un constat général.
C'est un constat.
Sans compter que, évidemment, les services publics aussi ont beaucoup de mal à faire face, j'imagine, parce que ce soit sur le plan de la scolarisation des enfants, il faudrait ouvrir une école tous les 15 jours, quasiment.
Oui.
Que ce soit sur le plan de la santé, évidemment. Donc tout ça est dans une croissance exponentielle et les services publics ne suivent pas. D'où un sentiment d'abandon, c'est ça que vous avez...
Oui, alors d'abandon peut-être pas, mais...
C'était l'impression qu'on avait lorsqu'on écoutait les reportages sur Mayotte, les Mayottes...
Les Mahorais.
Les Mahorais disaient assez régulièrement dans les émissions qu'on pouvait voir à droite ou à gauche en France, enfin en métropole, qu'ils avaient un sentiment d'abandon de la part de la métropole. Est-ce que c'est généralisé, ça?
Alors, sentiment d'abandon, sans doute parce que de temps en temps, le désespoir les prend, et ils ont le sentiment d'être effectivement, que, en tout cas, ils ont le sentiment que l'État n'apporte pas les solutions qu'il faudrait, ou l'État ou les collectivités d'ailleurs. L'État est présent. L'État est présent, les préfets font un travail important. Pour autant, ce qui est évidemment très compliqué, c'est que dans ces territoires, les situations sont tellement tendues qu'il leur semble que l'état actuel du droit ne permet pas de régler les problèmes.
Oui, d'où votre mission.
Oui, en partie.
Oui.
Absolument. L'état du droit ne permet pas de régler les problèmes parce que nous avons donc un droit extrêmement encadré et les actions publiques qui pourraient ou devraient être menées, si on respecte absolument l'état de droit, elles sont quasi impossibles à mener.
Oui, on n'a pas les moyens de faire respecter l'état de droit.
C'est très compliqué. Il faut mener des opérations coup de poing très difficiles à mettre en œuvre. Souvenez-vous, à Mayotte, lorsque le préfet a voulu déloger un certain nombre de personnes dans des bidonvilles de fait, il s'est trouvé des associations pour contester les décisions prises par le préfet, il s'est trouvé un juge pour estimer qu'il y avait voie de fait. Et effectivement, donc on voit bien que le système juridique, lorsque l'on est en face de situations exceptionnelles, peine à suffire. C'est très complexe. Je donne un autre exemple, si j'ai encore le temps. C'est celui de la lutte contre le trafic de stupéfiants, en Guyane en particulier. Le trafic de stupéfiants, et en particulier le système consistant pour une série de jeunes personnes à être payées pour transporter par avion des ballots de cocaïne ou que sais-je, eh bien, ça a poussé le préfet de la Guyane à faire un contrôle à 100%. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prendre un avion en Guyane pour rentrer à Paris, vous avez quand même intérêt à vous rendre 4 heures à l'avance à l'aéroport, parce que tout le monde est systématiquement contrôlé. Donc on essaye de mettre en place des systèmes pour essayer de contrôler une situation qui est très complexe.
Et alors, dans ce contexte-là, quel peut être, évidemment, vous démarrez votre travail, mais vous avez déjà, j'imagine, quelques grandes pistes de réflexion. Est-ce qu'il faut passer par une révision constitutionnelle qu'on imagine mal dans le contexte actuel français, ou est-ce qu'on peut arranger à la marge des choses, en fait,
Alors, il y a d'un côté les questions strictement constitutionnelles, ou institutionnelles, on va dire, qui relèveraient sans doute une révision de la Constitution, des articles dont que j'ai cités lors du dernier entretien, articles 73 et 74 de la Constitution. Mais il y a aussi, plus fondamentalement, la possibilité sans doute pour ces collectivités d'avoir une autonomie plus importante qui leur permettrait au plus près de prendre des décisions. Ça, c'est un point sur lequel il va falloir débattre. Est-ce que pour résoudre les difficultés fondamentales qui se posent dans ces collectivités, doit-on confier à ces collectivités une forme d'autonomie? Alors évidemment, c'est limité.
Une autonomie limitée. À la Corse, un peu, avec un Parlement capable de légiférer ou de quasi-légiférer?
Ça peut être envisagé, c'est déjà le cas d'ailleurs pour l'article 74 de la Constitution avec la Polynésie française. Le problème, c'est qu'un certain nombre de sujets fondamentaux sont régaliens. La sécurité, c'est régalien. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est régalien. La lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est régalien. Et donc là, ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Ouais. Vous voyez bien que c'est Gérald Darmanin qui est venu à Mayotte faire des annonces en tant que ministre chargé de ce régalien. Donc, il y a des évolutions institutionnelles possibles. Ensuite, il faudra réfléchir sur le plus long terme aux solutions qui peuvent être apportées dans des situations très particulières qui sont celles de ces territoires.
Pierre Hégère, merci pour toutes ces précisions, ces éclairages sur des sujets qui nous inquiètent beaucoup, toute la collectivité nationale, mais nous en tant que chrétiens particulièrement, parce que je crois que beaucoup d'entre nous sont extrêmement sensibles au sort des immigrés et à essayer de contribuer à trouver des solutions, bien sûr des solutions localement, lorsque des émigrés sont là, on ne peut pas les laisser mourir ou les mettre dans des conditions insupportables au pied de nos immeubles, mais plus généralement des solutions plus confortables aussi pour eux, avec peut-être un meilleur partage à travers du commerce ou à travers des échanges qui leur permettent de rester et de se développer chez eux. Mais enfin, c'est un vaste sujet. Merci beaucoup, Pierre Hégère.
Merci à vous.